Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et j'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur d'être avec le général Thierry Burkhardt, chef d'état-major de l'armée de terre, pour parler de cette armée, de son état actuel et de ses perspectives. Bonjour général, merci beaucoup de nous accorder cet entretien et bienvenue dans le Collimateur.
Bonjour.
Alors, général, je vais commencer cet entretien en vous posant la question la plus bête et la plus basique qui soit. C'est-à-dire, je vais vous demander de m'expliquer ce que c'est que la fonction de chef d'état-major de l'armée de terre. Notamment parce qu'on avait déjà reçu l'ancien chef d'état-major de la marine il y a quelques mois, et je me suis aperçu après que j'avais complètement oublié de lui poser la question, alors que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Et je vais quand même, au sein de cette question très bête, préciser quand même déjà un tout petit peu. Évidemment, vous êtes à la tête de l'armée de terre, c'est disons la première définition. Mais je voudrais savoir où ces fonctions et ces prérogatives commencent et où elles s'arrêtent, notamment par rapport et en complémentarité avec le chef d'état-major des armées qui est au-dessus de vous, particulièrement quand c'est quelqu'un qui connaît évidemment bien l'armée de terre de l'intérieur, comme c'est le cas en ce moment avec le général Lecointre qui est aussi issu de l'armée de terre.
Alors, vous l'avez dit, en fait, le chef d'état-major de l'armée de terre, il commande l'armée de terre. L'armée de terre, c'est 115 000 hommes et femmes. 115 000 hommes et femmes qui ont décidé de s'engager au service de leur pays. Et en fait, si on peut résumer de manière globale, en fait, ma mission, c'est de faire en sorte que les soldats de l'armée de terre en fait, soient prêts à partir en opération en France ou à l'étranger pour exécuter les missions que lui donnerait le chef d'état-major des armées, qui, vous l'avez dit, est mon chef.
Alors ça fait maintenant bientôt un an et demi que vous occupez cette fonction, que vous l'incarnez même. Elle vous était évidemment pas totalement étrangère, même avant, puisqu'on en reparlera peut-être, mais vous avez occupé un certain nombre de fonctions d'état-major avant, et vous avez donc côtoyé largement vos prédécesseurs. Mais du coup, je voudrais savoir, peut-être, ce qui vous a le plus surpris dans le fait d'incarner et d'occuper cette fonction. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a une dimension, un détail de la fonction auquel vous ne vous attendiez pas, ou même quelque chose que peut-être vous saviez intellectuellement, mais sans vraiment le savoir, comme c'est le cas parfois, et une fois que vous êtes retrouvé dans cet uniforme et derrière ce bureau, vous en avez réévalué ou pris toute l'importance en tout cas.
Alors, en fait, je pense que, heureusement, quand au bout de 30 ans de carrière, en fait, c'est pas qu'on n'est pas surpris par les postes qu'on occupe, mais néanmoins, on ne débarque pas de nulle part. Donc ça ne peut pas être une surprise totale, ça c'est la première chose. Néanmoins, quels que soient les postes d'ailleurs, on a quand même toujours, après néanmoins le moment où on arrive, et finalement on est obligé d'aller regarder un peu plus dans le détail. Et je pense que si sur le poste de chef d'état-major de l'armée de terre, en fait je pense que là probablement c'est la dimension, c'est la responsabilité totale. En fait il n'y a pas grand chose dans l'armée de terre, rien dans l'armée de terre qui puisse se passer où je ne puisse pas me sentir responsable.
Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, est-ce que c'est responsable de quand quelque chose va
pas ? En fait, c'est responsabilité totale, c'est de faire en sorte que les choses aillent bien, et quand il y a quelque chose qui va pas bien, en fait, on a forcément une part de responsabilité, et en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc je pense que c'est ça. Alors c'est à la fois, c'est extrêmement, c'est un vrai défi, parce que c'est 115 000 hommes qui font pas des missions ordinaires, pour qui la préparation opérationnelle est extrêmement exigeante. Je pense que c'est un métier qui est complexe, qui est difficile. L'armée de terre, c'est une organisation qui est complexe aussi. Puis après, c'est des hommes et des femmes. Alors ça, c'est le côté finalement extrêmement positif, parce que c'est quand même un groupe qui est assez extraordinaire, où il y a d'énormes satisfactions. Et je pense qu'il ne faut pas mettre en avant les problèmes qui peuvent y arriver. C'est d'abord une force exceptionnelle. Et ensuite, il y a aussi des problèmes à gérer, mais ce qui est normal. Et donc, en fait, c'est ça. La responsabilité totale.
Mais alors, au sein de cette responsabilité totale, il y a évidemment beaucoup de dimensions, beaucoup de tâches, beaucoup de facettes différentes. Et justement, peut-être, j'y pense parce que, je l'ai dit, vous avez passé un certain temps dans des états-majors avant, comme c'est le cas, enfin, c'est le parcours logique et normal. Mais votre parcours est particulièrement intéressant au sens où vous avez touché à plein de dimensions différentes de cet univers avant de devenir chef d'état-major de l'armée de terre. Et ce qui n'est pas toujours le cas, on peut dire qu'assez souvent, certains officiers ont une spécialité qu'ils approfondissent avant d'arriver aux plus hautes fonctions. Et vous, au contraire, vous avez touché à beaucoup de choses. Alors, je ne dis pas touché à tout, mais pas loin quand même, puisque vous avez occupé des fonctions de conseiller communication auprès du chef d'état-major des armées. Vous êtes aussi passé par la Coordination nationale du renseignement. Vous êtes passé par le CPCO, c'est-à-dire le Centre de planification et de conduite des opérations. Donc ma question, c'est dans quelle mesure est-ce que toutes ces facettes sont centrales, disons, à la fonction de chef d'état-major. C'est-à-dire, est-ce que vous pensez qu'avoir déjà vu tout ça avant, les opérations, le renseignement, la communication, ce qui fait partie du métier de chef d'état-major, est-ce que vous pensez que ça vous a particulièrement préparé à tout ça, c'est-à-dire aux fonctions que vous occupez aujourd'hui ?
Alors, je pense que le parcours parfait n'existe pas. Ça, c'est la première chose. Et que dans ce domaine-là, j'ai probablement pas un parcours qui soit parfaite pour occuper un poste de chef d'état-major d'armée. Parce qu'en fait, même si vous voyez mon parcours très diversifié, effectivement, et c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant dans notre métier, c'est qu'on fait rarement plus de 3 ans de suite le même métier. En tout cas, moi, j'ai jamais fait plus de 3 ans de suite le même métier, vraiment. C'était néanmoins tous des fonctions qui étaient très axées sur les opérations. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, de fait, j'ai une idée assez précise, en tout cas j'espère, sur la manière dont l'armée de terre doit se préparer. Pour autant, j'ai quand même, non pas des lacunes, mais en tout cas peu d'expérience sur d'autres domaines organiques comme les finances, comme le capacitaire. Mais pour ça, j'ai un état-major et bien évidemment, je ne suis pas seul, donc c'est pour ça qu'on y arrive.
Ouais, et alors, si on essaye de remonter peut-être un peu plus loin, en quelque sorte, dans votre parcours dans l'armée de terre. Je voudrais juste commencer par simplement rappeler que vous êtes originellement de la Légion étrangère, ce qui est d'ailleurs pas si fréquent pour un chef d'état-major de l'armée de terre, parce que, à moins que je ne me trompe, vous êtes le premier chef d'état-major de l'armée de terre de la 5e République issu de la Légion étrangère. Et vous êtes par ailleurs originellement commando-parachutiste. Ce qui veut dire, j'imagine en tout cas, que vous avez commencé par une unité à la fois à très haut niveau de compétences et d'engagement, mais aussi en même temps vous avez commencé par commander des unités relativement petites, et avec des gens qui venaient de tous horizons, puisque c'est la Légion étrangère, et où il fallait donc, j'imagine, créer du commun. Donc qu'est-ce qui vous est resté en quelque sorte de cette expérience première du commandement dans la suite de votre parcours ?
Bien évidemment, la Légion étrangère est spécifique, mais je pense que pour tous les gens, c'est-à-dire tous les officiers de l'armée terre qui commencent lieutenant en régiment, en fait, c'est que ça soit les Légions étrangères ou ailleurs, en fait, c'est d'abord les relations humaines. C'est ça le métier de chef de section, c'est bien évidemment une compétence technique, c'est une compétence tactique, c'est un niveau physique, mais c'est d'abord commander des hommes. Et donc c'est l'exercice des relations humaines, dans toute sa difficulté, mais dans toute sa beauté aussi, et sa complexité. Donc je pense que c'est ça que je retiens. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, en tout cas qu'il ne faut pas oublier tout au long de sa carrière.
Et puisque bon, c'est le parcours de commander de plus en plus de monde, enfin jusqu'à aujourd'hui, ça va être difficile de faire plus, mais c'est... Qu'est-ce que vous avez préféré comme échelon ? C'est-à-dire, alors peut-être ce que vous pensez être l'expérience la plus pure du commandement, c'est-à-dire est-ce que c'était quand vous étiez avec quelques hommes, quelques dizaines d'hommes sur un terrain, en commando parachutiste ? Ou est-ce que c'est aujourd'hui avec plusieurs dizaines de milliers de personnes sous vos ordres ? C'est quoi le moment de commandement que vous avez préféré?
Alors, en fait, vous avez raison de le rappeler, puisqu'en fait, dans l'armée de terre, en fait, finalement, tout le monde est un peu chef. Enfin, alors, ça veut dire si tout le monde est un peu chef, tout le monde est un peu le subordonné de quelqu'un. Mais tout le monde arrive à exercer un commandement. Un soldat, au bout de 2 à 3 ans, il est caporal et il va commander un trinôme. Donc, il va avoir déjà la responsabilité d'homme, en particulier au combat, mais dans des actions de la vie courante. Le chef de section, le jeune lieutenant, il commande sa section ou son peloton, et il est engagé assez vite en opération aussi à leur tête. Donc, je pense que la notion d'être chef dans l'armée terre est quelque chose qui est important, et c'est quelque chose qui est important pour soi, mais en fait aussi pour les hommes qu'on commande. Les hommes qu'on commande, où on a une vraie responsabilité vis-à-vis d'eux, bien évidemment, dans les missions qu'on va devoir réaliser, mais aussi pour la vie de tous les jours. et c'est-à-dire les faire grandir. En fait, dans l'armée de terre, on se prépare toujours à prendre la place de son chef de manière assez saine, non pas de manière ambiguë. Et d'ailleurs, votre chef vous prépare et vous aide à prendre sa place un jour. Et ça, je pense, faire épanouir les gens qu'on commande et les voir grandir est quelque chose qui est très, très satisfaisant. Et donc ça, c'est un peu tout au long de notre carrière, c'est quelque chose, c'est une longue succession d'actions de ce type-là. Maintenant, quel est le poste que j'ai préféré, le commandement que j'ai préféré exercer, je pense que c'est assez difficile.
Il n'y a pas forcément de réponse.
Chaque poste avait sa caractéristique, chaque poste avait son intensité. Alors bien évidemment, il y a des moments forts quand on commande sa compagnie, quand on commande son régiment, où là aussi on a les responsabilités qui sont bien déterminées. Et pour autant, donc c'est des moments très forts. Et bien évidemment, qui sont très concrètes et qui se matérialisent tous les jours. Après, quand on est au CPCO, on n'exerce pas le même type de commandement, mais pour autant, il y a des satisfactions énormes. Ou tout simplement, aussi à la cellule communication de l'EMA, où c'était une toute petite équipe, avec une vie assez dense et trépidante, avec des gens que je n'avais jamais imaginé côtoyer, en tout cas qui étaient assez loin des légionnaires que j'avais commandés quand j'étais commando parachutiste, par exemple, ça c'est sûr. Et pour autant, avec le même plaisir de les voir et d'observer leur sens de l'engagement et leur investissement dans la mission. Voilà. Donc je pense que c'est très difficile de dire. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est quand même une carrière qui est très scandée. Comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai jamais fait plus de 3 ans de suite sur un même poste. Donc c'est bien souvent 2 ans. Donc c'est quelque chose qui tourne assez vite. Chaque fois, on a l'impression que la fin, ça arrive trop vite. La fin de cette séquence-là arrive trop vite. Et pour autant, ça ne s'arrête pas, on bascule sur le poste suivant et on y trouve le même plaisir parce qu'il faut, se réinvestir et s'engager pour remplir la mission.
Et juste pour rester un dernier moment sur le commandement, est-ce que vous pensez que... est-ce que vous avez l'impression d'avoir été chef toujours de la même manière? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une naissance du commandement que depuis la section, la compagnie, jusqu'à l'état-major, au sommet de l'état-major? Est-ce que j'imagine aussi une question de... Enfin, ça pose aussi la question de est-ce que ça s'apprend et est-ce que ça s'apprend à être chef?
Alors, je pense qu'on est tout d'abord assez bien formé, même très bien formé en école. Très bien formé en école, que ce soit en école de sous-officier, en école d'officier, techniquement, tactiquement, et aussi à qui on essaie de nous inculquer les principes du commandement. Après, néanmoins, le premier jour où on commande, c'est quand même le premier jour. Il n'y a pas de secret. Et donc, on apprend beaucoup. Et je pense qu'on apprend tout au long de sa carrière sur le commandement. Même si, bien évidemment, le commandement s'exerce de manière différente quand on commande sa section ou quand on est chef d'état-major de l'armée de terre. Mais pour autant, je pense qu'on apprend tout au long de sa carrière parce que commander est quand même quelque chose qui est assez complexe. Alors, il y a une dimension technique ou tactique. Où là, il faut être performant. Je ne dis pas que c'est facile. En tout cas, c'est quelque chose qu'on arrive à concrétiser. Après, il y a l'autre partie du commandement, qui est celle-là beaucoup plus complexe, c'est commander les hommes et les femmes dont on a la responsabilité. Et là, c'est des problématiques de nature humaine. Et bien les commander est quelque chose qui est compliqué. Alors, j'imagine que je serai probablement aujourd'hui un bien meilleur chef de section, avec 30 ans de recul. Pour saisir la nature humaine, voir les messages que les gens essaient de me faire passer, la complexité de certaines situations. Je courrais probablement moins vite aussi avec mes légionnaires, mais je pense bien évidemment j'aurais beaucoup plus de recul. Ça veut dire qu'en fait, et c'est aussi une autre caractéristique, c'est que bien évidemment, chef c'est un métier qui est exigeant, mais on n'est jamais seul. Comme j'ai dit, on est chef, donc on commande des gens, mais on a aussi un chef qui est là pour nous aider. On a aussi des subordonnés qui sont là pour nous aider, en particulier quand on est jeune, mais même après, et qu'il faut savoir écouter. Et ces gens-là sont de grande qualité. Donc je suis bien évidemment, le commandement, quand on dit est-ce qu'on commande différemment, je pense d'ailleurs que celui qui commande bien commande chaque homme de manière un peu différente. Parce que chaque homme, et bien connaître ses hommes, c'est ça que ça veut dire. Il y a des gens qu'il faut encourager. Il y a des gens qu'il faut au contraire, non pas menacer, mais en tout cas mettre face à leurs responsabilités. Et c'est ça, la sensibilité du commandement. Et donc ça, on l'apprend tout au long de sa carrière et dans des situations différentes.
Donc ça veut dire qu'on commande à chaque homme autant qu'on commande au groupe, quoi.
Oui, bien évidemment. Alors après, on voit bien que tactiquement, bien évidemment, qu'on commande le groupe. mais après dans l'autre partie du commandement qui est de gérer ses hommes. Mais en fait, la dimension amener sa section au combat, elle commence par la manière dont on forme et dont on commande les hommes dont on a la responsabilité chaque jour. Si on prenait le commandement juste pour aller au combat, je suis sûr que ça ne marcherait pas.
Alors maintenant, si on peut passer peut-être davantage à un panorama de l'armée de terre et de son état actuel, alors pas seulement comme vous l'avez trouvé, mais aussi comme vous avez commencé à y imposer votre marque désormais. Je voudrais peut-être commencer par les hommes et les femmes, puisque c'est de ça que vous avez parlé naturellement. Ensuite, on parlera évidemment des matériels, parce que c'est très intéressant, mais c'est toujours mieux quand même de commencer par les hommes et les femmes. Ma question, c'est quelles sont vos perspectives et vos objectifs, disons, pour cet élément de l'humain de l'armée de terre ? Simplement pour contextualiser, je vais simplement rappeler que l'armée de terre a connu une baisse assez massive de ses effectifs depuis le milieu des années 2000, disons, au fil des différentes réductions budgétaires, même si on sait que cette tendance lourde s'est redressée depuis quelques années, puis avec la loi de programmation militaire actuelle. C'est une baisse qui a touché toutes les armées, mais l'armée de terre plus que les autres, en chiffre absolu aussi, parce qu'elle était plus volumineuse au départ. Et en même temps, on sait que l'armée de terre a un impératif de recrutement, puisque c'est une armée jeune, voire très jeune, et qui a besoin de le rester, pour des raisons que vous nous expliquerez peut-être. Donc, où en est l'armée de terre, à la fois de l'encaissement de ce choc, de cette évolution, et puis quelles en sont les perspectives actuelles ?
Alors, je pense qu'effectivement, vous avez raison de le rappeler, l'armée de terre aujourd'hui, c'est environ 115 000 femmes et hommes qui sont engagés au service, enfin qui sont engagés pour servir leur pays. Ça fait, il faut s'en rendre compte, c'est vraiment une très très grande richesse. Une grande richesse en termes de variété de profils, de milieux, d'expérience, puisqu'on recrute chaque année environ 16 000 jeunes Français, donc ce qui est un volume assez considérable.
C'est donc plus de 10% du volume total.
C'est en gros 10% du volume total, et ça c'est lié, en tout cas c'est une des conséquences d'effectivement des décisions qui ont été prises en 2015 suite aux attentats, de réaugmenter le volume des forces terrestres. Voilà, et en fait, donc ça, c'est on s'est engagé dans un grand mouvement de remontée en puissance. Et en RH, en ressources humaines, c'est toujours quelque chose où, en fait, il y a une vraie inertie. Et cette caractéristique de l'armée de terre qui est alimentée par le bas. En fait, on n'achète pas des commandants, on achète les officiers, on achète des lieutenants. Enfin, on achète, entre guillemets, on recrute des lieutenants qui un jour seront colonels et généraux 30 ans plus tard. On recrute des militaires du rang qui vont grimper de hiérarchie. On recrute des sous-officiers. Alors tous ces gens-là vont bien évidemment grandir, mais en fait, ça ne se fait pas instantanément. Et par exemple, il faut 10 ans pour former un adjudant. Quand on part de tout en bas. Donc bien évidemment, en fait, quand on a augmenté de 11 000 hommes en 2015, les adjudants de 2015 ne sont pas encore là. Voilà. Et donc, il faut tout qu'on reconstruise ça. Donc c'est pour ça qu'on est encore dans une dynamique assez forte de recrutement. Comme je vous l'ai dit, 16 000 jeunes par an. Donc tout ceci, ça fait quand même une armée de terre qui est très jeune, qui n'est pas une tare. En fait, je préfère avoir une armée de terre qui soit jeune, parce qu'en fait, c'est un impératif par rapport aux missions qui nous sont fixées, par rapport à la dureté du métier, par rapport au sens de l'engagement qu'il faut avoir et aux contraintes que ça implique. Donc, c'est plutôt dans une bonne dynamique et il faut laisser un peu de temps encore pour que cette armée de terre, finalement, devienne un tout petit peu moins jeune et mature, entre guillemets, en tout cas en termes de grand volume RH. Pour autant, cette armée de terre, c'est une armée de terre qui est très expérimentée parce qu'en fait, ça fait depuis, depuis 2006, 2007 ou 2008. Depuis 2008, elle a toujours été engagée en opération, en Afghanistan, ensuite en RCA, en République centrafricaine, aujourd'hui au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Donc c'est une armée qui est très engagée et qui, de fait, bénéficie d'une vraie expérience opérationnelle. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Je constate qu'en Europe, on est l'armée de terre qui est la plus engagée depuis 15 ans. Et ça, c'est une vraie force. C'est une vraie force. On a la chance d'être une armée de terre d'emploi. Pourquoi c'est une vraie force ? Parce que ça veut dire que, déjà, parce qu'il y a l'expérience qu'on acquiert en opération. Et ça, on peut avoir le meilleur entraînement possible. Rien ne remplace le fait d'aller en opération, quelle qu'elle soit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça veut aussi dire qu'un jeune Français qui s'engage aujourd'hui dans l'armée de terre, en fait, il sait que c'est pour aller en opération. C'est pas seulement hypothétique ce qui est déjà très bien de s'engager pour défendre son pays, ce qui est très fort. Mais en plus, le jeune Français sait que ce n'est pas seulement un effet d'annonce. En fait, il sait qu'une fois qu'il sera soldat, ce n'est pas seulement s'il est volontaire qu'il ira en opération. C'est son régiment, sa compagnie, son escadron seront désignés pour aller en opération et il partira en opération. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. Et j'aurais tendance à dire que dans notre métier, en fait, l'engagement opérationnel, il a toujours un coût. En 2019, l'armée de terre, elle a eu 23 tués et plus de 500 blessés. Voilà, ça veut aussi dire donc que le jeune soldat qui s'engage, il sait qu'il ira en opération et il sait qu'il fait un métier particulier où il peut risquer sa vie et perdre sa vie. Et donc ça, c'est quelque chose qui est bien évidemment extrêmement douloureux pour les soldats, pour les familles, pour les chefs. Mais c'est aussi quelque chose qui est extrêmement structurant. Voilà, et donc c'est là-dessus que se construit une grande partie de la force de l'armée de terre.
Et cette expérience, cette expérience accumulée quoi, des déploiements, elle se situe où ? C'est-à-dire quoi ? C'est les compagnies ? C'est les sous... Ma question, en fait, c'est avec une armée qui recrute beaucoup et où aussi il y a des gens qui partent, parce que c'est normal, c'est le cadre quoi, qui permet d'intégrer les nouvelles recrues dans cette expérience, qui permet de leur en faire profiter, c'est quoi, disons, l'armature ?
En fait, il faut bien comprendre que l'armée de terre, c'est quand même une masse en mouvement qui grimpe. En fait, tout le monde progresse, comme je vous l'ai dit, on se prépare toujours un peu à prendre la place de son chef. Le soldat, 2 ans après, il est caporal. S'il le veut, 5 ans après, il sera sergent. Le sergent, naturellement, il va être sergent-chef, adjudant, le lieutenant, capitaine. Donc en fait, cette expérience-là, elle progresse. Et donc ça fait un gros, gros niveau d'expérience. Alors, bien évidemment, il y a le turnover, l'alimentation par le bas, qui fait que là, on touche des gens moins expérimentés. Mais ces gens-là arrivent dans des unités... globalement expérimenté, en tout cas avec un encadrement et une partie des soldats qui connaissent leur métier. Et ensuite, aujourd'hui, je pense que les chefs de corps sont ceux qui étaient capitaines en Afghanistan, probablement. Donc c'est des gens qui ont été au combat, qui ont combattu, qui se sont préparés, qui ont mûri les engagements qu'ils ont faits. Donc ça, c'est vraiment une très très grande force. Voilà. Et ça, c'est important parce qu'il faut bien comprendre que le milieu terrestre est un milieu qui est extrêmement dur. Et en particulier d'un point de vue opérationnel. Il est dur physiquement, parce qu'en fait, même si avant même que l'ennemi vous tire dessus, en fait, allez sur le terrain et vous verrez, il fait toujours ou trop chaud, ou trop froid, ou trop humide, ou trop sec. On porte son sac, on ne dort pas beaucoup, on marche. Donc c'est un milieu qui est dur, qui est extrêmement abrasif. Après, c'est un milieu qui est dur, donc qui est dur physiquement. C'est un milieu qui est dur moralement aussi, parce que le combat que livrent les unités de l'armée de terre, c'est forcément un combat qui est extrêmement décentralisé et où chacun, jusqu'au plus bas niveau, porte une vraie responsabilité dans l'engagement du combat. Et que le caporal qui commande son trinôme, en fait, quand il est de l'autre côté d'un mur, en fait, son chef de groupe, celui qui commande 10 hommes, en fait, ne le voit probablement déjà plus. Ça ne veut pas dire qu'il va faire n'importe quoi, il a des ordres, mais il a une vraie responsabilité. Et donc cette espèce d'isolement nécessaire pour mener le combat terrestre, c'est quelque chose qui pèse et qui, moralement, il faut être capable de supporter.
Donc il faut être autonome.
Il faut avoir une vraie capacité d'autonomie, une vraie capacité d'autonomie de décision, mais aussi une vraie capacité de commander les gens qui tirent de soi, de rendre compte, de prendre la bonne décision. Ça ne se passe jamais comme prévu. C'est pour ça qu'on met des hommes, parce que lui saura toujours prendre la meilleure ou la moins mauvaise solution possible. Donc c'est quelque chose qui est dur moralement. Après, c'est aussi quelque chose, le combat terrestre, qui est dur psychologiquement. Parce que je vous l'ai dit, en fait, le combat terrestre, c'est le feu qui tue. Et je vous donnais des pertes pour l'année 2019. C'est quelque chose qui est conséquent, qui force. Et donc, psychologiquement, il faut résister à ce sentiment-là. Et aujourd'hui, il n'y a pas de soldat de l'armée de terre qui ne soit pas conscient de ça. Voilà.
Alors, c'est une armée qui se renouvelle, donc, du point de vue des hommes, beaucoup, on l'a vu assez vite. C'est aussi une armée qui se renouvelle du point de vue des matériels, alors avec certains chantiers qui sont très visibles et d'autres qui le sont peut-être un peu moins. Alors on va parler de Scorpion, de la numérisation du champ de bataille, qui sont évidemment des chantiers gigantesques et dont on parle souvent. Mais une fois n'est pas coutume, j'aimerais commencer par parler d'éléments très concrets et très communs à tous les soldats, à savoir le petit matériel qui se renouvelle aussi, et vraiment en ce moment, notamment parce qu'on voit l'entrée en vigueur de deux éléments de base qui sont très importants, qui sont le nouveau fusil mitrailleur HK416 qui remplace le mythique FAMAS et les nouveaux treillis F3. Alors expliquez-nous peut-être déjà la logique et les différences que ça va faire, disons, cette nouvelle génération d'équipements, mais qui va toucher vraiment tous les soldats pour le coup là.
Alors cette modernisation et cet effort de réparation, ça c'est ce qui traduit la loi de programmation militaire. Et derrière la loi de programmation militaire, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est le soutien du pouvoir politique et en fait de l'opinion publique. Parce qu'en fait, c'est bien l'expression du peuple pour que son armée soit bien équipée pour pouvoir partir en opération et pour remplir ses missions. Après, il y a deux types de... deux approches, quand vous parlez de modernisation, on parlera après des matériels, mais pour l'armée de terre, au-delà de matériel majeur, en fait, il y a le petit équipement. Et parce que le soldat, il est sur le terrain, et il vit avec un peu ce qu'il a sur lui. Alors vous avez cité effectivement le HK-416, qui est le nouveau fusil d'assaut, qui est le nouveau matériel, le treillis F3, qui est un treillis mieux adapté et plus confortable, et qui protège mieux aussi, en particulier vis-à-vis du feu. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui est associé au nouveau gilet pare-balles. Donc pour le soldat de l'armée de terre, en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Alors ça peut paraître un peu le club des joies simples, mais non, le soldat, il aime bien être bien équipé. Et d'ailleurs, bien évidemment, quand un nouveau matériel arrive, en fait, il n'arrive jamais assez vite. HK-416, pour autant qui a commencé à être distribué, je pense, il y a maintenant un an et demi, avec des volumes assez importants, de l'ordre de 12 000 armes par an. Donc, ce qui est un vrai effort, en fait, ça ne va pas assez vite. En fait, quand le HK-416, tous les soldats de l'armée de terre, ils aimeraient le jour même avoir eux aussi le HK-416. Donc, ce qui provoque à la fois certaines critiques, mais une certaine impatience. Mais cette impatience, elle est logique. Voilà, donc il faut expliquer. Pour autant que bien évidemment, on est bien mieux équipé aujourd'hui, la silhouette du soldat français, si vous regardez 15 ans en arrière, n'a plus rien à voir.
Mais justement, c'est familier pour vous. Je veux dire, c'est tout bête, mais par exemple, j'imagine que vous connaissez très intimement le FAMAS, étant donné votre passé opérationnel. Mais ce nouveau fusil d'assaut, vous l'avez, je sais pas, c'est tout bête, mais vous l'avez essayé, soit au moment où il fallait le choisir, ou soit depuis?
Alors, quand il a été choisi, je n'étais pas du tout dans un poste où j'avais une responsabilité dans le choix de l'arme, mais depuis, j'ai tiré avec le HK-416.
C'est bien.
Et, oui, c'est très très bien. C'est très très bien. Alors, le FAMAS avait été un vrai choix. Alors, je pense que le FAMAS, il a dû arriver en 1985. Hein, donc maintenant, ça fait plus de 30 ans. Et qui était, quand il est arrivé, lui, déjà une révolution aussi. Bien évidemment, tous les soldats français voulaient le FAMAS, puisqu'on était encore avec deux types d'armes, PM MAT 49, modèle 1949, hein, et MAS 49-56, là aussi 1956. Donc bien évidemment, il y avait un changement de calibre. C'était une arme qui était beaucoup plus compacte. Et je comprends bien que je vois dans certains commentaires, il y a des gens qui disent « mais on ne peut pas abandonner le FAMAS et tout ». Bon, le HK-416 est quand même la dimension au-dessus. Et en particulier avec la capacité à mettre beaucoup plus d'équipements dessus en termes de moyens de visée, en termes de moyens d'observation ou des équipements additionnels comme un lance-grenade. Donc,
vous auriez bien aimé l'avoir à l'époque.
Comment ? Oui, oui, bien sûr. Mais le FAMAS était, si on réfléchit, était déjà pour autant une arme très très bien conçue hein, en termes de compacité, en termes de précision, mais qui était quand même... probablement une arme pour être faite en grande quantité, qui correspondait encore à un volume où l'armée de terre, on devait être 300 000 hommes avec beaucoup d'appelés. Voilà. Et donc le HK-416 est une arme qui correspond plus aux engagements d'aujourd'hui, à la technicité et à la capacité à intégrer des équipements nouveaux qui sont mis dessus pour des soldats professionnels.
Alors justement, puisqu'on commence à parler de ces nouvelles dimensions, de ce qu'on rajoute à ces équipements, on peut peut-être dire simplement qu'il y a eu une étape aussi dans le petit transition vers le moyen matériel, c'est le système Félin qui était en place depuis quelques années, c'était beaucoup d'équipements optroniques, c'était beaucoup d'électronique qu'on a rajouté. On peut dire que ça a eu des résultats mitigés. À l'emploi, il y a eu quelques soucis sur le terrain. Je sais pas, quels enseignements est-ce que vous tirez de cette tentative de Félin et de ce qu'on essaie de faire?
En ce qui concerne Félin, en fait, que j'ai pas vraiment connu en régiment, parce que c'est dans les périodes où je suis passé un peu à travers. Néanmoins, il faut reconnaître qu'il y avait quand même une vraie volonté de défricher, c'est-à-dire d'avancer et d'essayer de donner un peu un surplus de capacité au fantassin. Le fantassin qui était avec un meilleur lien entre le soldat, l'arme et la transmission d'informations à son chef en termes de communication. Alors bien évidemment, quand on défriche, on expérimente et il y a des solutions qui se révèlent bonnes, d'autres solutions qui se révèlent un peu moins bonnes.
On peut dire simplement, parce que ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est lourd, mais c'était très lourd.
Félin, c'était lourd. On a découvert la problématique de l'alimentation électrique. parce qu'en fait ces choses-là ne marchent pas avec rien du tout. Donc tout ça, c'est des choses qu'on a appris à gérer, et je pense que Félin, même si ça n'a pas donné entière satisfaction, ça a quand même permis de défricher un domaine où aujourd'hui, quand on voit sur la partie du combat infovalorisé, donc Scorpion qui est en train d'arriver, ce qui se met en place, et après-demain matin, Scorpion débarqué, en fait, on profite énormément de ce qu'on a appris de Félin. Donc même si Félin n'a pas donné totalement satisfaction, ça a permis vraiment d'expérimenter, d'aller sur différentes voies, et aujourd'hui travailler sur un programme Scorpion débarqué qui sera beaucoup plus mature. Voilà. Donc assez logiquement, Félin a vraiment défriché un nouveau domaine.
Alors justement, parlons-en maintenant, c'est-à-dire on est parti du petit matériel quotidien, là. Maintenant on est à l'autre bout du spectre, donc on a Scorpion qui est alors la nouvelle génération, j'allais dire, de véhicules de l'armée de terre, mais il n'y a pas que les véhicules, puisque vous en avez parlé, c'est aussi toute la partie débarquée, donc c'est tout l'équipement, avec une infrastructure informatique qui devrait permettre donc la numérisation du champ de bataille, mais aussi le partage de capteurs, d'informations en temps réel aussi. Donc, bon, on connaît l'ambition, je l'ai résumé à très très gros traits, vous allez, j'imagine, la détailler. Mais peut-être, du point de vue, c'est-à-dire de vos fonctions, c'est-à-dire du chantier, que c'est, c'est-à-dire au-delà du grand objectif, à quel rythme est-ce que ça va, cette mise en place et en service à l'échelle de votre quotidien, c'est-à-dire, on en est où et à quelle vitesse est-ce qu'on peut aller pour un changement de logiciel, c'est le cas de le dire, aussi complet de l'expérience du combat d'armée de terre?
Alors, je pense que si vous le permettez, je vais juste rappeler un peu éventuellement ce qu'est Scorpion, en tout cas comment il faut le voir. Donc Scorpion, c'est le programme Scorpion, c'est effectivement la modernisation d'une bonne partie des matériels de l'armée de terre, en particulier les matériels qui équipent les brigades dites médianes et les brigades légères. Donc c'est les successeurs, on met en place en fait le successeur du VAB, on met en place le successeur de l'AMX-10RC et de l'ERC-90. C'est ça que Scorpion va remplacer, en tout cas en termes de véhicules.
Donc mais VAB, en fait, rappelons simplement, c'est l'acronyme pour véhicule de l'avant blindé.
Comment ?
C'est l'acronyme pour véhicule de l'avant blindé.
Exactement, véhicule de l'avant blindé, qui est un véhicule de transport de troupes, qui est un peu la bête de somme de l'armée de terre qu'on a engagée sur toutes les opérations et qui a donné satisfaction. Mais néanmoins, il y avait une évolution nécessaire, et donc ils vont être remplacés par le Griffon, qui va être le nouveau véhicule de transport blindé et de combat de l'infanterie. Et d'autres fonctions aussi, et le Jaguar, qui en fait est le véhicule de combat de la cavalerie, qui va remplacer l'AMX-10RC et le RC-90. Mais en fait, ça c'est effectivement des véhicules qui sont neufs et qui profitent des technologies modernes en termes de capteurs, en termes de moyens d'agression beaucoup plus performants, beaucoup plus précis, à des distances supérieures d'engagement. Mais en fait, ceci n'est qu'une partie du programme Scorpion. Le reste du programme Scorpion, c'est ce que vous avez dit, c'est en fait la couche de transmission, entre guillemets, ou de moyens de transmission qui vont raccorder l'ensemble de ces matériels sur le champ de bataille. Ça, c'est le système Scorpion qui va équiper ces engins-là. Et si on veut faire une analogie, c'est un peu comme si vous aviez vos véhicules de combat étaient nos smartphones d'aujourd'hui, avec effectivement une capacité à capter de l'information, une capacité à la retransmettre, à la partager. Il manque les moyens d'agression sur nos téléphones, mais sur nos véhicules, il y en a. Et Scorpion, la couche Scorpion d'infovalorisation, c'est un peu comme si vous aviez... c'est la 5G. Donc c'est ce qui permet de relier tout ceci et en fait de rendre tout ceci extrêmement fluide. Donc maintenant, ceci est en train de se mettre en place dans l'armée de terre, progressivement, avec les véhicules dans un certain nombre de régiments. L'objectif étant de projeter un groupement tactique interarmes, en gros entre 800 et 1000 hommes, sur un théâtre d'opération fin 2021. Mais c'est quand même, je ne sais pas si on peut encore parler de révolution dans le combat, en tout cas d'évolution profonde. Donc le défi de l'armée de terre, c'est effectivement non seulement de faire arriver, d'acquérir et de prendre en compte ces véhicules et ses moyens de communication, mais c'est surtout d'apprendre à les utiliser et à optimiser leur emploi, ce qui en soi constitue un vrai défi. On ne peut pas seulement mieux utiliser parce que le Griffon est meilleur que le VAB. Non, il faut qu'on soit capable de les employer différemment. Et là aussi, ça en revanche, autant on avait eu Félin pour le système Scorpion débarqué, pour autant, alors il y a eu la numérisation de l'espace de bataille, mais c'était à un niveau bien moindre. Donc là, il y a vraiment une vraie acquisition, une vraie découverte.
Il faut réapprendre comment on fonctionne
ensemble. En fait, il ne faut pas réapprendre. En fait, il faut trouver des moyens pour exploiter au maximum le matériel, le nouveau matériel qui arrive et l'infovalorisation qui relie toutes ces affaires-là pour faire du combat collaboratif avec la capacité, bien évidemment, à ce que ça soit un moyen qui acquiert l'information, un autre qui délivre les feux, observé par un troisième.
C'est-à-dire littéralement un véhicule qui
observe, un véhicule qui observe et qui donc a une bonne vision du champ de bataille, mais qui lui ne va pas tirer, parce qu'autrement il dévoilerait sa position. Et pour autant, l'ennemi va être engagé par un moyen qui se trouve, lui, dans un compartiment de terrain plus protégé, et tout ceci quasiment de manière instantanée.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire pas faire comme aujourd'hui, donner un point GPS, etc.
Exactement,
ou donner des,
exactement. Là, ça sera de manière automatisée, le partage de l'information, et donc de décider qui ouvre le feu, donc la synchronisation. Donc on voit bien que ça, c'est quelque chose qui est quand même qui nécessite une nouvelle approche, et de roder des procédures, et d'explorer des domaines.
Mais alors du coup, cette montée en gamme et en technologie, ça pose aussi une question, c'est-à-dire... Étant donné la quantité d'électronique et d'équipement qu'il y a maintenant dans tous ces nouveaux appareils, tout ça a évidemment un surcoût qui est très significatif, hein, c'est presque des échelles différentes même. Donc ma question, c'est en quelque sorte, est-ce que c'est soutenable cette montée des coûts en technologie, c'est-à-dire si on veut garder des dimensions larges pour une armée nationale, c'est-à-dire si la moindre pièce coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros d'électronique, voilà, comment est-ce que c'est soutenable, disons, budgétairement, quoi ?
Alors, vous avez raison, c'est un vrai sujet. Bon, pour autant, ces technologies nouvelles, en fait, les coûts ont considérablement baissé. Il y a 10 ans, je pense que c'était même pas envisageable, pour dire à quelle vitesse les choses, rien qu'en termes de coûts. Je ne suis pas sûr que ça existait, mais en termes de coûts, c'était pas envisageable. Pour autant, il y a un vrai sujet, effectivement, de conserver un juste niveau technologique dans les matériels qu'on acquiert. Je résume un peu en disant une Formule 1, ça gagne la course, mais ça gagne pas la guerre. Et donc moi, j'ai pas besoin de Formule 1. J'ai besoin de matériel qui soit capable de gagner la guerre. Donc c'est-à-dire non seulement avec un coût qui soit acceptable à l'achat, mais aussi un coût qui soit acceptable dans l'entretien, et en particulier un entretien indépendant du coût qui se fasse dans des délais raisonnables.
Mais alors, je voudrais.
Est-ce que j'ai rien contre la Formule 1.
Ouais. Est-ce que c'est compatible avec, c'est-à-dire avec un autre objectif, un autre imaginaire dont vous avez déjà parlé tout à l'heure, qui est quelque chose de très présent dans votre discours, dans tout ce que j'ai lu de vous, c'est l'idée du durcissement de l'armée de terre. C'est-à-dire, je trouve que c'est une image que je trouve fantastique parce qu'elle est incroyablement évocatrice, l'idée d'une armée de terre durcie. Mais en même temps, je ne sais pas totalement ce que ça veut dire, donc j'aimerais que vous nous expliquiez ce que vous entendez par là. Ce que je veux dire, c'est que spontanément, quand on parle de tout ça, d'un renouvellement de matériel, de technologie, etc., on pense à des surcouches, on pense à disons une armée de terre augmentée, hybride, informatisée. Au contraire, l'imaginaire du durcissement, spontanément, ça m'évoque plutôt la capacité à évoluer bon, dans tous les milieux et aux besoins sans ça, justement. Sans...
Alors, vous avez raison. Et en fait, pour en complément de ce qu'on peut dire sur le combat infovalorisé et ce qu'on est en train d'expérimenter et de découvrir, tout d'abord, c'est probablement la nécessité aussi de revoir, ou en tout cas de faire évoluer la manière dont on commande. On voit bien que cette espèce de transparence du champ de bataille, quand tout fonctionne bien, qui peut arriver, c'est aussi probablement la meilleure capacité à gérer la somme d'informations pour le chef. Mais c'est aussi une capacité à la fois que si on a des moyens où il y a une grande intervisibilité, une vraie capacité à ce que chacun agisse de manière décentralisée, mais qu'on a encore un commandement qui est extrêmement vertical, ou que chaque ouverture du feu doit être commandée par le chef, en fait, on va pas utiliser la totalité des capacités, en tout cas la manière de conduire nos opérations. Mais chacun ne va pas pouvoir néanmoins tirer quand il le veut. Donc il y a déjà une vraie nécessité en termes d'organisation du commandement et de la manière dont on va commander les opérations qui doit être appréhendée. Et ça, on est en train de le prendre en compte, de le découvrir. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, et c'est particulièrement vrai dans notre métier, il faut... toujours qu'on pense à la manière dont on agirait, on dit de manière dégradée. C'est-à-dire si finalement, aujourd'hui, c'est quand le GPS s'arrête, comment je fais pour finalement conduire à... Si je n'ai pas pris ma carte, pas mis le point de départ, le point d'arrivée, en fait, je m'arrête et j'attends que le GPS se rallume, ce n'est pas terrible. Donc il faut qu'on ait une vraie capacité et qu'on ait toujours en tête la manière dont on continue à poursuivre les opérations, à poursuivre le combat, y compris de manière dégradée, voire très dégradée. Donc maintenant... Une armée de terre durcie, qu'est-ce que ça veut dire ? Une armée de terre durcie, c'est effectivement un terme un peu générique qui recouvre plusieurs choses. c'est-à-dire une armée de terre durcie, c'est pour faire face à des combats plus durs. Alors, je vous l'ai dit, l'armée de terre, elle a la chance et la force d'être une armée de terre qui est expérimentée, qui est une armée d'emploi. Et ceci, est une, je le redis, est une vraie force. Pour autant, le monde d'aujourd'hui, tel qu'on le voit, montre que la conflictualité évolue et qu'il faut probablement que, alors que ça fait 15 ans ou 20 ans, qu'en fait les conflits auxquels on était confrontés étaient plutôt face à un espèce de terrorisme militarisé. En fait, on voit que dans un certain nombre de conflits, l'évolution d'un certain nombre de conflits montre qu'on doit s'attendre à faire face à des opérations différentes avec un ennemi qui serait plus difficile à prendre en compte. Parce qu'aujourd'hui, les opérations sont déjà très dures et que le soldat qui combat en BSS, il mène un combat très dur. Et il mène un combat difficile. Mais on le mène dans des conditions assez, non pas favorables, mais particulières. Je m'explique. Aujourd'hui, au Mali, en fait, la troisième dimension, c'est-à-dire l'espace aérien, est quelque chose qui ne nous est pas contesté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si j'ai un blessé, en fait, il n'y a aucune raison pour que je ne puisse pas faire venir un hélicoptère pour le récupérer, pour l'amener à l'hôpital à Gao, où il sera pris en compte au rôle 2, dans de très bonnes conditions. Peut-être la météo peut nous compliquer les affaires, mais c'est jamais rarement du fait de l'ennemi. Si j'ai besoin d'un appui-feu dans l'espace, pas partir de l'espace aérien, c'est quelque chose qui peut arriver très vite. On voit que c'est plus si simple et qu'aujourd'hui, il y a des conflits où finalement, la troisième dimension est quelque chose qui est contesté. C'est-à-dire, à défaut de ne pas que ce soit pas l'autre qui acquiert la supériorité aérienne, en tout cas, ce n'est pas quelque chose où on est sûr de pouvoir agir à notre guise. Et donc, il faut qu'on appréhende différemment les opérations qu'on pourrait avoir à conduire demain, avec une forme d'inconfort opérationnel, avec tous des milieux qui seraient contestés. Et pour ça, c'est un peu sous ce vocable-là. Quand on dit que l'armée de terre doit se durcir, elle doit se durcir face à de nouvelles menaces, avec, je dis bien, des conditions encore plus dures que celles qui sont conduites aujourd'hui. Elle doit se durcir aussi parce qu'elle devrait être capable, si on conduit des opérations de ce type, d'engager des unités d'un niveau supérieur, déjà d'un volume de force supérieur, mais de niveau. Aujourd'hui, globalement, la manœuvre en BSS se conduit au niveau du GTIA, du groupement tactique interarmes, c'est-à-dire la combinaison de plusieurs compagnies. Mais généralement, c'est même au niveau de la compagnie. Demain, on voit bien que les opérations que conduisent certains de nos compétiteurs engagent des brigades, voire des divisions, c'est-à-dire le niveau supérieur avec la capacité à agir dans la profondeur par des tirs d'artillerie, par des frappes aériennes, par du brouillage et aussi une guerre informationnelle. Mais ça, on peut éventuellement y revenir.
Oui, justement, alors tout ça nous amène évidemment à parler des perspectives pour les engagements de l'armée de terre, dont vous avez déjà largement commencé à parler. Mais alors, juste pour repartir du matériel, formulons-le ainsi, c'est-à-dire cette montée en gamme de l'armée de terre, en l'occurrence, avec les nouveaux programmes, est-ce que tous ces équipements dont on vient de parler marquent encore une réelle supériorité technologique occidentale, comme on a pu la connaître, disons, depuis la fin de la guerre froide au moins, par rapport aux principaux compétiteurs des armées occidentales? Ou est-ce que tout ça a tendance, alors c'est une tendance lourde, hein, c'est difficile, si on regarde sur tel ou tel point, c'est difficile de faire un diagnostic, mais a tendance à s'égaliser un peu, alors avec la montée en puissance et en capacité et en ambition de la Russie, de la Chine et éventuellement de leurs alliés?
Oui, vous avez raison, on assiste bien évidemment à un phénomène de réarmement de manière globale. Alors bien évidemment, il y a des puissances pour lesquelles c'est assez naturel, mais même sur des pays qui ne sont pas des superpuissances, il y a des petits pays qui sont engagés dans une dynamique de réarmement extrêmement, extrêmement forte, avec en plus une vraie volonté de se servir de leur outil militaire. C'est-à-dire, il y a une forme de désinhibition dans l'emploi de la force qui est aujourd'hui assez, assez flagrant.
C'est plus que des acquisitions de prestige, comme ça a pu
exactement,
être le cas dans
certaines
décennies.
En tout cas, y a une moindre, voire plus d'inhibition dans l'emploi de la force. C'est-à-dire, quand c'est ce qu'on peut appeler en fait, un retour du rapport de force dans le règlement des conflits. Ce qui pour moi est assez parlant, c'est qu'il y a 15 ans, en fait, une crise, elle se réglait, en tout cas elle était conduite au rythme des résolutions de l'ONU. Il fallait du temps pour obtenir la résolution, ça discutait. Une fois qu'elle était votée, après certaines péripéties, il fallait du temps pour la mettre en œuvre. Mais en fait, c'est ça qui donnait un peu le tempo de la crise. Aujourd'hui, le tempo, c'est quand quelqu'un décide de dire bon, « je franchis la frontière et je m'empare d'un glacis de 30 km sur, de profondeur sur 300 à 400 km de large. Je mets 80 000 hommes, j'engage 200 chars et je fais ça. Voilà, j'ai les moyens de le faire et je décide de le faire. » Voilà, donc il y a une vraie approche différente. Alors ce qui est sûr aussi, c'est qu'effectivement, d'un point de vue technologique, les moyens modernes et une certaine dissémination de ces moyens fait que même des pays, hein, pas forcément des petits pays, mais des puissances moyennes ou de petites puissances, en fait, peuvent acquérir ce matériel-là sur des segments très ciblés, comme par exemple des brouilleurs GPS, mais aussi des missiles de précision, des moyens de vision nocturne, des drones qui sont aujourd'hui à la portée de presque n'importe qui. Et donc, effectivement, d'un point de vue supériorité, les armées occidentales perdent petit à petit une partie de leur supériorité technologique.
Ouais, alors, tout ça dessine donc un spectre dont bah, les différents responsables militaires, notamment vous, parlaient souvent, c'est-à-dire le retour des conflits de haute intensité, ouverts, violents, à la différence des engagements, disons, de contre-insurrection que vivent la plupart des armées occidentales depuis au moins 20 ans. Mais donc, ma question, c'est à quoi est-ce que ça ressemble pour vous précisément cette menace, tant en termes d'acteurs que de forme ? C'est-à-dire, j'espère bien que personne ne pense qu'on va être en guerre ouverte contre la Russie ou la Chine dans les années à venir, ce serait inquiétant. Mais depuis quelques années, on a eu des exemples qui peuvent faire réfléchir. On a eu l'Ukraine, on a eu très récemment, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan autour du Haut-Karabakh, auquel vous avez peut-être fait quelques références à l'instant. On a encore l'Éthiopie, même à l'heure où on enregistre, où c'est un conflit ouvert. Donc, c'est-à-dire, comment est-ce que vous l'imaginez concrètement, ce retour de la haute intensité ? Est-ce que c'est des guerres ouvertes, mais par proxy, avec des armées équipées par des grandes puissances qui s'affrontent ? Est-ce que c'est des affrontements potentiellement plus directs entre grands adversaires géopolitiques, mais restant conventionnels, mais directs ?
Alors, je pense que, effectivement, quand on parle de conflits ou de conflits de haute intensité, de guerres de haute intensité, je ne pense pas qu'il faille s'imaginer la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelque chose qui est un peu plus complexe aujourd'hui, mais en tout cas, c'est quelque chose avec des niveaux d'engagement qui seraient supérieurs à ceux qu'on connaît, en volume et en intensité, supérieurs à ceux qu'on connaît aujourd'hui, comme vous l'avez dit, dans nos opérations contre le terrorisme militarisé. Ça, c'est la première, donc une histoire de... qui sont déjà très dures. Qui sont déjà très dures.
Bien sûr, je ne voulais pas dire qu'ils n'étaient pas violents.
Exactement. Après, il y a aussi, je pense que la vraie différence, c'est aussi quelque chose qui va s'étaler beaucoup plus dans la profondeur du champ de bataille. La profondeur du champ de bataille sur le théâtre d'opération, mais qui pourrait aussi toucher d'autres effets, d'autres segments, y compris assez loin sur le territoire national, ou en tout cas se rapprochant du territoire national, et qui sera plus global, parce qu'il y aura des conséquences qui pourraient être économiques, qui pourraient être sécuritaires, qui pourraient être diplomatiques. En fait, aujourd'hui, en BSS, il n'y a pas vraiment d'engagement diplomatique. Alors évidemment, on est en contact avec les autorités maliennes et tout, mais ce n'est pas vis-à-vis de l'ennemi que ça se joue. Et je pense que la haute intensité, c'est ça. Ce sera des crises qui seront plus globales.
C'est-à-dire qu'ils ne seront pas seulement militaires, mais...
Qui ne seront pas seulement militaires et qui seront dans toute la profondeur. Voilà.
Mais alors, si on peut réfléchir aussi de près à ces guerres, c'est que, bah, on a des exemples. On a des exemples qui se multiplient, parce qu'elles sont très documentées. Par exemple, si on reprend l'exemple de l'Arménie ou du Haut-Karabakh, il y a un truc qui est frappant, on a fait une émission, qui est le fait qu'on a énormément d'images de cette guerre, et qui est des images qui ont été diffusées, qui ont été tournées, qui ont été diffusées, et qui donc ont été diffusées probablement pour un effet. Est-ce que... Enfin, c'est-à-dire, c'est pas un risque, mais si... Enfin, est-ce que c'est en tout cas une dimension qui vous fait réfléchir, enfin, qui vous a fait réfléchir récemment, de voir cette immense masse d'informations fait pour déstabiliser, on imagine, l'ennemi? On ne sait pas très bien ce qu'ils avaient en tête, les Azerbaïdjanais, quand ils l'ont fait. Mais voilà, est-ce que vous dites que ça peut être quelque chose auquel l'armée de terre, enfin les armées françaises, vont devoir faire face rapidement?
Alors, ça, c'est très clairement, je pense, peut-être la fracture majeure aujourd'hui, c'est-à-dire la guerre informationnelle. La guerre informationnelle qui est aujourd'hui systématiquement employée et qui devient un vrai champ de confrontation. Ça, c'est très, très clair. Et vous citez le dernier exemple, Azerbaïdjan-Arménie. Mais c'est valable dans tous les conflits auxquels on assiste aujourd'hui. Et c'est quelque chose auquel il faut se préparer. Et vous voyez bien que dans un monde qui est beaucoup guidé par l'émotion, en fait, quelques tweets ou quelques images permettent de mettre le désordre dans les esprits, dans les rues, et pourquoi pas demain dans des unités militaires. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte, d'une part pour s'en protéger, c'est-à-dire apprendre à nos unités, à nos soldats, à mieux appréhender ce qu'est la guerre informationnelle et comment ils peuvent y être confrontés. Et c'est quelque chose aussi qu'on doit maîtriser pour nous en servir. Voilà. Donc ça, c'est pour moi un des domaines de rupture les plus importants.
C'est-à-dire faire attention qu'un soldat ne soit pas perturbé parce qu'il a pu voir sur les réseaux sociaux la veille ou...
Exactement, parce qu'en fait, le vecteur principal de la guerre informationnelle, on l'a tous dans notre poche, et les soldats aussi, c'est le téléphone portable. Et ça veut dire pour nous, on doit nécessairement avoir la capacité d'absolument mieux combiner nos actions matérielles ou cinétiques, en tout cas dans les champs matériels, avec les champs immatériels, c'est-à-dire la guerre informationnelle. Donc ça c'est la caractéristique des opérations aujourd'hui et encore plus de demain, c'est-à-dire la combinaison d'actions sur le terrain, mais aussi d'actions dans les champs immatériels pour provoquer des effets significatifs sur l'ennemi. Et ça, c'est quelque chose, c'est une synchronisation qui est extrêmement poussée et qui nécessite un vrai savoir-faire.
Très bien, merci beaucoup, Général, de nous avoir accordé ce moment et cette discussion.
Merci.
C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je rappelle comme toujours que vous pouvez nous joindre par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM et que comme d'habitude, notes et commentaires nous sont utiles et précieux, notamment sur iTunes, tant parce qu'ils donnent de la visibilité au podcast que parce qu'ils nous permettent d'avoir un échange et un retour sur ce qu'on fait. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.